D'abord, une découverte, c'est le cas de le dire. Je le savais pas et je suis très content de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas vous non plus. Mais c'est un Québécois qui pilote la sonde spatiale New Horizons qui va devenir, au tournant de l'an, autour du 1er janvier prochain, l'objet le plus éloigné jamais visité par l'être humain. Il s'appelle Frédéric Pelletier. Il est navigateur interplanétaire. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bonjour, Frédéric Pelletier.
Bonjour, M. Drainville.
D'abord, juste pour mettre la table comme il faut, rappelez-nous ce qu'est la sonde spatiale New Horizons et où est-ce qu'elle est présentement là, dans l'espace.
New Horizons, c'était une mission qui a été lancée en 2006, qui a visité Pluton en 2015. Pour laquelle j'ai travaillé d'ailleurs. Puis là, on va aller voir, comme vous l'avez dit, une nouvelle cible en 2019, 1er janvier. C'est un petit objet d'une trentaine de kilomètres de diamètre à peu près aux confins du système solaire dans une région qu'on appelle la Kuiper Belt.
Comment vous l'appelez encore?
Là? Kuiper, si on veut, le K-U-I.
K-U-Y-P-E-R, très bien. Alors, la sonde... elle fait quoi au juste? Alors, vous dites qu'elle est passée près de Pluton en 2015. Donc, avant ça, elle était passée près de Saturne. Elle a fait plusieurs planètes, Neptune, etc., n'est-ce
non,
pas?
Non, seulement Jupiter. On s'est servi de Jupiter pour se propulser grâce à sa gravité. Mais la mission principale, c'était Pluton. C'est une mission de la NASA qui existe depuis 2006, comme j'ai dit.
OK. Et là, être pilote de cette sonde-là, ça veut dire quoi? Ça implique quoi, ça?
Mon travail avec mon équipe, c'est de l'amener à bon port. Monsieur Drainville, je ne sais pas si vous jouez au golf, j'ai envie de vous donner un exemple de golfeur.
Allez-y.
On parle d'une distance entre Pluton puis Ultima Thule, notre cible, de 1,6 milliard de kilomètres. Puis moi, mon travail, c'est de rentrer dans une boîte de 60 kilomètres carrés. C'est un peu l'équivalent de partir de Montréal sur le verre de départ au golf et d'essayer d'arriver à Vancouver au drapeau dans les mêmes dimensions.
Hein?
Ouais. Alors, on va se donner un par 8, mettons, là, peut-être pas un par 3, là, mais
oui.
Pour l'instant, on est rendu à 6 coups. Fait que c'est possible encore qu'on ait un eagle, mais sûrement un birdie parce qu'il nous reste une chose à faire possible le 30 décembre pour le dernier ajustement de trajectoire.
OK. Donc, décrivez un peu pour les gens qui nous écoutent, puis pour moi, là, à quoi ça ressemble votre travail? Êtes-vous comme devant un écran, puis là, vous avez un joystick, comme on dit, puis là, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous guidez cette sonde-là, qui est de la grosseur à peu près d'un camion, hein, c'est ça?
Plutôt d'un piano à queue. Il y a une forme triangulaire, là, à peu près de la grosseur d'un piano.
OK.
Pour naviguer, M. Drainville, on se sert de deux sources de données principales. La première, c'est des ondes radio de communication à partir de la Terre. Alors, on triangule notre engin spatial à partir d'antennes terrestres qui sont tout autour du globe. Et pour bien se positionner vers la cible, on prend des photos. On a pris des photos de Pluton en approche de navigation. Maintenant, on prend des photos d'Ultima Thule. Et c'est grâce à ces photos-là qu'on est capable de comprendre notre position relative par rapport à la cible. Fait que notre travail, non, on n'a pas un joystick parce qu'il faut comprendre qu'à des distances comme ça, on ne travaille pas en temps réel. On a 6 heures de délai de communication. Fait qu'on prend nos photos, on les ramène sur Terre avec les antennes de communication. Après ça, on fait nos calculs, on se positionne, puis après ça, on va designer des manœuvres de correction de trajectoire pour les renvoyer à bord.
OK. Puis quand vous dites une correction de trajectoire, donc à ce moment-là, vous activez votre carburant, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est quoi le carburant? Excusez-moi.
C'est un gaz inerte qui s'appelle l'hydrazine. C'est pas du gaz comme dans les autos, là. On n'a pas d'explosion là-dedans. C'est juste on ouvre les valves puis ça fait une poussée. Dans l'espace, comme vous savez, il n'y a pas de gravité. Alors, simplement pousser, ça va accélérer la sonde.
Là, la sonde, elle est à quoi? C'est 6 milliards de kilomètres de la Terre, c'est ça? 6 milliards?
Oui, 6,6.
6,6. Et elle a passé devant Pluton en 2015. Et là, elle est à combien de centaines ou de milliers de kilomètres de Pluton?
Il nous reste un bon millier de kilomètres à parcourir, je pense, à peu près. On voyage à... Il faut comprendre qu'on voyage à 50 000 km heure, un petit peu plus vite que sur les autoroutes de Montréal. mais ouais, c'est des grandes distances à concevoir. Là, mais...
Alors, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant avec cette sonde New Horizons? Quelle a été, la plus belle découverte, là?
La plus belle, ça a été ça a été Pluton. C'était vraiment l'objectif principal de comprendre cette neuvième planète du système solaire déchue un peu parce que maintenant, on en trouve plein dans cette troisième zone du système solaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on était jeune, M. Drainville, on parlait de nos neuf planètes.
Bien
on
oui.
avait les rocheuses avec la Terre, Mars, Vénus. Puis on avait les grandes gazeuses. Puis après ça, c'était à peu près... C'était tout. Depuis ce temps-là... c'est sûr que Pluton a été découvert il y a assez longtemps, mais on s'est aperçu que ce qu'on appelle la Kuiper Belt, que je parlais tantôt, c'est une espèce de région assez grande, pleine d'objets. Et Pluton fait donc partie de cette Kuiper Belt. C'est un des plus gros objets qui a été découvert dans la Kuiper Belt, mais qui maintenant est désigné une planète naine. Et Pluton... c'est pas une roche typique comme un astéroïde qu'on trouve des photos. Il y avait vraiment des choses intéressantes à apprendre là-dessus puis à découvrir.
Les photos, je m'en rappelle encore, là, étaient absolument magnifiques. Les photos qui ont été prises à partir de la sonde New Horizons, des photos de Pluton en 2015, notamment le New York Times les avait publiées, c'était absolument extraordinaire, la qualité de la photographie, là.
Ah, effectivement. Puis ce qui est le fun avec Ultima, notre prochaine mission, c'est qu'on va passer plus proche que Pluton. Pluton, on est à 10 000 km de la surface. Dans ce cas-ci, on va être à 3 500 km d'altitude. Alors, on devrait avoir une résolution meilleure. Par contre, c'est sûr qu'on a un plus petit caillou à visiter. Là. Ça sera peut-être pas la même chose.
Alors, Ultima Thule, là, ça s'écrit Ultima comme Ultima. Thule, c'est T-H-U-L-E, accent aigu. Ça, c'est pour quel est l'intérêt d'aller observer cette roche-là, comme vous l'appelez vous-même? C'est, ça sert à quoi, là?
C'est une bonne question. Je vous dirais que c'est voyez ça comme un voyage dans le temps. On est tellement loin du soleil qu'on parle d'un corps qui est glacé ou est-ce que ça... Il y a à peu près pas eu de changement sur sa composition, sa formation initiale. Donc, ça permet aux scientifiques d'étudier la formation des petites planètes au début, à peu près à 4,6 millions d'années.
Du début du système solaire?
Oui, c'est ça.
OK. Et une fois qu'elle aura observé, pris des photos de ce caillou, y arrive quoi avec la sonde?
Ah ben, on continue. Il y a déjà, la mission de la NASA a été extensionnée après Pluton jusqu'en 2021. Évidemment, le Ultima Thule, c'est le point culminant, mais après ça, il va y avoir encore des objets à regarder, mais d'une distance beaucoup plus grande. On n'est pas capable de rediriger notre sonde pour passer proche des autres, mais au moins, on va quand même capable de les observer. Il y a plusieurs choses qu'un astronome peut faire avec même des images à la longue distance.
Mais est-ce que vous allez continuer à piloter la sonde ou est-ce qu'une fois qu'elle a passé Ultima Thule, là, vous perdez le contrôle, même si vous pouvez rester en communication puis continuer à recueillir des images, c'est ce que je comprends, là?
Ben, c'est vrai que la navigation, le travail d'ingénierie va diminuer un peu, mais non, on perd pas le contrôle. On va le garder. Si on est capable de... Il y a encore une chance qu'on découvre une cible où est-ce qu'on pourrait se rediriger pour rapprocher notre distance. Fait que le travail va continuer après ça.
OK, mais est-ce que vous restez toujours dans le système solaire ou est-ce que la sonde, à un moment donné, vous pourriez sortir du système solaire et quand même garder un
oui.
lien, garder, rester en communication avec la sonde? Dans d'autres mots, pendant encore combien de temps vous pensez pouvoir... être en lien avec cet objet-là?
Ça va rester en contrôle et ça va sortir du système solaire, un peu comme Voyager vient de le faire. Les deux sondes Voyager de la NASA, là, les premières que beaucoup de monde connaissent, sont encore en communication. Fait que la même chose va arriver avec New Horizons. Je pense pas qu'on le rattrape parce que on voyage pas nécessairement plus vite si on partait avant nous autres, mais ça va sortir du système solaire. Grâce à la bonne batterie qu'on a au plutonium, ça devrait nous durer très, très longtemps. Je peux pas vous donner de date, là, je ne sais pas exactement.
Pourquoi on dit que la sonde New Horizons va explorer l'objet le plus éloigné jamais visité par l'être humain, alors que vous venez de nous dire que les deux voyageurs 1 et 2 sont déjà plus loin que la sonde New Horizons?
Ouais, parce que Voyager n'ont pas, on dit en anglais, targeté, ils n'ont pas ciblé
ouais.
Rien d'autre passé les planètes, les gazeuses Uranus, Neptune, Pluton. Ben, pas Pluton, mais. Donc, oui, ils sont plus loin, mais par contre, il n'y a pas d'exploration qui se fait de proche d'un corps comme Ultima Thule.
OK, je comprends. Donc, elles sont plus loin en distance, mais l'objet le plus éloigné qui aura été exploré, c'est Ultima Thule que vous allez explorer au tournant du nouvel an, là.
Oui, exactement. Et c'est quand même un défi incroyable. Et ça va prendre un bout de temps avant que ça soit battu.
Là, les gens doivent se demander comment un Québécois comme vous, Frédéric Pelletier, s'est retrouvé à commander... Une sonde de la NASA. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, parce que on a parlé beaucoup de David Saint-Jacques, avec raison, mais vous aussi, vous avez, si on peut dire, la tête dans les étoiles, et vous pourriez, à votre façon, inspirer peut-être des jeunes gars et des jeunes filles qui vous écoutent. C'est quand même un exploit, là, on s'entend, là. Les chances qu'un Québécois soit celui qui soit aux commandes de cette sonde-là, c'est quand même exceptionnel, là.
Ouais, je pense que oui, merci de le mentionner. J'ai travaillé pendant, depuis mes études graduées aux États-Unis, donc je travaillais à la NASA directement, j'ai transféré au Québec parce que mon employeur, qui était un contracteur, a parti à un nouveau projet pour lequel je fais partie maintenant. Puis tout de suite après New Horizons, je vais passer là-dessus. Ça s'appelle North Star. C'est un projet qui est montréalais et qui veut mettre en orbite plusieurs satellites pour observer la Terre et les débris spatiaux qui orbitent autour de la Terre. Donc, on revient à des distances plus familières.
Mm-hmm.
Mais il y a beaucoup d'analogies qui se font dans le travail de navigateur interplanétaire vers pour un projet comme North Star.
Mais vous avez quoi comme formation, le mettons?
Je suis ingénieur en aérospatial.
De
l'Université du Texas à Austin. Donc, après mes études à l'Université Laval à Québec, je suis un gars de Québec, je suis parti aux États-Unis pour... ça avait l'air intéressant, c'était le fun, un jeune qui veut faire quelque chose. Puis après, j'ai comme trouvé mon chemin là-dedans parce que j'ai fait ma recherche pour la NASA, puis ils m'ont aimé. Fait que j'ai parcouru là-dedans pendant 10-15 ans à faire ça là-bas.
Fait que vous auriez pu rester aux États-Unis, vous, là?
Oui, j'aurais pu, mais... c'est drôle de demander ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais voyons, Fred, j'étais en Californie, d'ailleurs, c'est sûr qu'il fait beau là-bas, c'est le fun. Mais après avoir fait une dizaine d'années, on se dit, sont où mes racines, premièrement, puis je l'ai fait, je passe à d'autres choses.
Est-ce que c'est... écoutez, donc vous allez vous occuper des satellites, vous dites, là, avec la compagnie North Star.
Oui.
Tout ce travail-là que vous avez fait avec la sonde New Horizon, est-ce que ça vous amène un peu philosopher sur, par exemple, l'origine de la vie ou encore l'existence de la vie ailleurs que sur notre planète? Parce que j'imagine, veux pas, quand tu travailles comme ça, ça t'amène à te poser ces questions-là, non?
Oui, c'est évident. Depuis que je suis tout petit, je me pose ces questions-là. Je suis content de travailler dans le monde de l'exploration spatiale parce que c'est un peu ce qui me fait vibrer. J'ai pas nécessairement les réponses à mes questions, mais j'aimerais beaucoup ça, avoir participé à l'exploration spatiale qui va mener à la découverte de la vie ailleurs. Moi, je crois fermement qu'on n'est pas seul au monde.
C'est vrai?
Oui. Ah ben...
Dans votre esprit, c'est réglé, ça. Il y a de la vie ailleurs. Maintenant, il s'agit juste... soit on la trouve, soit elle nous trouve.
Oui, c'est ça. L'immensité de l'univers est tellement grande. Même à Ultima Thule ou Pluton, ça reste une échelle très minuscule comparée à l'univers. Alors moi, il y a tellement d'étoiles partout, de galaxies. Ça se peut pas qu'il y ait pas d'autre chose. C'est mon avis, là, mais...
Est-ce que ça va... la prochaine étape pour vous, là, parce que, si je comprends bien, une fois que vous aurez pensé Ultima Thule, est-ce que vous restez au projet de New Horizons ou vous pensez à autre chose, là?
Non, je pense à North Star.
Vous pensez à North Star. Donc, New Horizons, ça va être fini.
Pas sans moi, là, mais ils vont continuer. Je pense à North Star, puis on va essayer de... ça serait le fun de se reparler même là, sur ce projet-là avec North Star, parce que c'est excitant ce qui se passe là.
Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement être appelé à travailler sur d'autres projets, comme par exemple celui d'envoyer une mission habitée sur Mars?
C'est toujours possible. Je pense que... on verra, mais... pour les prochaines années, je vais me concentrer sur North Star. On ne peut pas tout faire en même temps, mais oui, je n'ai pas dit non à continuer dans l'exploration interplanétaire. C'est sûr que c'est fascinant.
Parce que j'imagine que la NASA, visiblement, ils sont plutôt heureux de votre rendement. Sinon, ils ne vous auraient pas gardé si longtemps. Ils pourraient éventuellement vous rappeler pour vous donner d'autres responsabilités, non?
Oui, c'est possible. So far, so good. Je pense qu'ils sont contents, effectivement. Moi, je suis content aussi d'avoir fait mon bout de chemin avec eux. J'ai fait plusieurs missions. C'est pas la première que je fais. J'ai fait Saturne, j'ai fait Mars.
Qu'est-ce que vous voulez dire, vous avez fait Saturne?
J'ai travaillé sur une mission qui s'appelle Cassini. J'ai commencé ma carrière là-bas. En fait, il y en a une autre avant ça qui s'appelait NEAR, qui était une mission vers un astéroïde. Mais comme étudiant, alors j'étais là-dessus. Mais la mission Cassini, qui a visité Saturne pendant plusieurs années, c'était un orbiteur. Alors, on visitait toutes les lunes autour. C'était fascinant, c'était le fun.
Vous avez travaillé sur Cassini?
Oui. Pendant peut-être un bon 7-8 ans. Au travers de ça, j'ai fait l'atterrissage de Curiosité sur Mars. Je ne me souviens plus quelle année, là, mais ça n'a pas très longtemps.
Oui, le petit robot, là.
Oui, oui, oui.
Mais qui marche encore, d'ailleurs, non?
Ouais, je pense que oui. Je sais que mes anciens collègues de ça sont en train de travailler sur la mission Mars 2020, 2020. La NASA va répéter un peu l'exploit qu'ils ont fait avec Curiosité.
Aïe, aïe, c'est un parcours incroyable. je suis surpris qu'on ne vous connaisse pas davantage. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir connu et je suis certain qu'il y a plein d'auditeurs qui ne vous connaissaient pas comme moi, qui sont très heureux de savoir que vous existez, mon cher Pelletier. Je trouve ça vraiment extraordinaire qu'un Québécois ait fait autant de chemin. Puis là, j'apprends pour Curiosity, puis j'apprends pour Cassini également. Ben écoutez, on est content de vous rapatrier. En tout cas, moi, je trouve ça formidable que vous veniez travailler pour une entreprise québécoise qui va travailler donc dans le domaine des satellites, North Star. Et puis, au plaisir de se reparler, mon cher Frédéric Pelletier, donc navigateur interplanétaire, c'est le cas de le dire. Joyeux Noël.
Joyeux Noël, merci beaucoup.
Puis je vous souhaite un beau temps des fêtes avec votre famille. On s'arrête un instant et au retour, on va justement parler là, du Père Noël qui est sur le point de décoller. Et on va parler à quelqu'un de chez NORAD là, qui va nous dire là, où en sont les préparatifs pour le vol du Père Noël. Hein? C'est important là, qu'on sache là, où est-ce qu'il en est rendu le Père Noël dans ses préparatifs dans un instant.